Soir aux oreilles, on reçoit Jean-Yves Mollier, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Saclay. Et je le reçois à l'occasion de son ouvrage « Interdiction de publier, la censure d'hier à aujourd'hui », qui est paru aux éditions Double Ponctuation dans la collection Point d'exclamation. Bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir et merci de m'inviter.
La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous en êtes arrivé à la censure et comment on travaille sur la censure, qui est par définition quelque chose qu'on n'est pas censé voir.
Alors, c'est une longue histoire. D'un point de vue citoyen, je n'ai jamais évidemment aimé la censure, mais d'un point de vue scientifique, cela fait plus de 30 ans qu'avec le groupe de travail de mon université, nous nous intéressons aux questions de censure. Le premier colloque que nous ayons organisé sur la censure remonte à 1994. Et un livre, d'ailleurs, en avait été extrait. Ce livre avait été publié chez Complexe à Bruxelles sur la censure à l'ère démocratique. J'ai continué en association avec des collègues étrangers et en 2006, nous avons publié dans une autre maison d'édition un colloque comparatif sur la censure dans les pays, quatre pays francophones, la Belgique, le Québec, la Suisse romande et la France. Nous avions choisi quatre pays francophones et catholiques, plutôt catholiques, disons, que protestants, pour avoir la possibilité de comparer, disons, des ensembles à peu près homogènes. Et puis, à côté de cela, j'ai publié de très nombreux articles et un certain nombre de livres spécifiques sur la censure, notamment en 2014, un livre consacré à l'abbé Bethléem, qui a été un des grands censeurs, j'allais dire même inquisiteurs catholiques, du XXe siècle. Au-delà du personnage, qui n'aurait pas grand intérêt puisqu'il est mort aujourd'hui, il est mort en 1940, l'intérêt c'est que son livre « Romans à lire et romans à proscrire » avait fait l'objet de 11 rééditions, 140 000 exemplaires vendus, et il ne s'adressait pas aux lecteurs ordinaires, il s'adressait aux directeurs de collèges, de lycées, de bibliothèques, de pensions, donc à des prescripteurs. Il a été vendu dans 132 pays, ça veut dire une influence considérable. Considérable, quoique en grande partie souterraine. Donc vous voyez, les questions de censure, je les traque d'une certaine manière depuis très longtemps.
Et au départ, vous êtes un spécialiste de l'édition, c'est ça, de l'histoire de l'édition en tant qu'industrie, j'allais dire.
Oui, mais aussi je m'intéresse, disons, davantage aux auteurs, c'est-à-dire à une littérature libre. Mais évidemment, travaillant sur le long terme, j'ai rencontré l'interdiction des fleurs du mal en 1857, à Paris par le procureur Pinard, le même qui devait la même année 1857 à la fois condamner les mystères du peuple de Gensu, Gensu venait de mourir mais son livre a été condamné après sa mort, et puis qui avait également poursuivi devant le tribunal correctionnel Gustave Flaubert pour la publication de Madame Bovary. Heureusement pour Flaubert, le procureur s'est contenté en quelque sorte de le sermonner, il n'a pas été, les juges ne l'ont pas condamné. Mais enfin, on voit bien que 1857 constituait une sorte de pic, et j'ajoute qu'en la même année en Grande-Bretagne, la notion d'obscenity était utilisée par les tribunaux pour faire la chasse, au fond, à tous les livres qui déplaisaient. Dans les deux cas, d'ailleurs, morale victorienne ou morale impériale et bonapartiste en France, on ne définit jamais à l'avance ce qu'on va interdire. On laisse toute latitude aux censeurs, même s'il est juge professionnel, on lui laisse toute latitude, au fond, pour dire ceci me convient ou ceci ne me convient pas. En 1848, lors de la Révolution qui avait installé la Deuxième République, Victor Hugo et les auteurs dramatiques qui avaient été censurés par le régime monarchiste précédent avaient réuni une commission d'enquête parlementaire. Ils ont fait venir les censeurs dramatiques, donc ceux qui traquaient les mauvaises mœurs au théâtre. Ils leur ont dit « Mais comment est-ce que vous travaillez ?» Les censeurs ont répondu, nous n'avons aucun texte législatif. Et il y a un censeur plus perspicace que les autres qui a dit, ben moi c'est simple, lorsque je regarde le texte d'une pièce de théâtre en manuscrit, je me demande si je pourrais emmener ma femme et ma fille voir ce spectacle. Si la réponse est oui, j'autorise. Si la réponse est non, je censure. Si la réponse est avec quelques modifications, je demande des modifications. Et c'est pour ça, au fond, que le dessinateur, le caricaturiste André Gilles, avait représenté en 1874 Madame Anastasie, sous les traits d'une très vieille femme, elle est courbée, elle a d'énormes lunettes de myope, donc elle y voit très mal, elle a un cornet auditif, donc elle est complètement sourde, et elle a sur l'épaule un hibou, un oiseau de nuit. Au fond, la censure travaille toujours dans l'obscurité, elle est sourde, elle est aveugle, et donc, en fait, elle impose au gré des circonstances ce qu'elle décide d'imposer aux individus. C'est pour ça qu'elle est si dangereuse. Au fond, on n'est jamais condamné par les tribunaux à cause de la censure. Les tribunaux, ils vous condamnent en fonction d'une loi. La censure, c'est bien pire. C'est au nom de la morale, au nom des bonnes mœurs, au nom du respect de la vie privée, du respect du haut chef d'État, etc., etc. C'est-à-dire à des notions très floues. C'est rarement en fonction d'un texte de loi bien précis. Il faut distinguer. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, en 2022, il y a des pays qui entretiennent encore des censeurs et qui les rémunèrent. Mais c'est en général dans les pays où la charia ou la loi musulmane s'impose. Et en Iran, par exemple, mais même au Liban, dans d'autres pays arabes, vous avez effectivement des censeurs payés pour lire donc le manuscrit des pièces de théâtre ou des romans ou des essais et pour ensuite aller voir, lorsque le spectacle est mis en scène, s'il n'y a pas une attaque, au code de la morale. Mais en dehors de ces pays, dans les pays dits démocratiques, il n'y a plus de censeurs. En France, les censeurs ont été abolis à la fin de l'année 1905. Mais, et c'est ça qui est le plus intéressant, ils n'ont pas été abolis après un débat parlementaire qui aurait permis, au fond, à chacun de dire « je suis pour » ou « je suis contre ». Les députés se sont contentés de supprimer le salaire des censeurs et évidemment, ces fonctionnaires ont été versés dans d'autres départements. La France, au fond, n'a pas eu le courage d'affronter un vrai débat sur la censure. Donc, dans nos pays, il n'y a pas a priori de censure. Mais dans les années 1950 à Paris, il y a un éditeur qui s'appelle Maurice Giraudias. Il est spécialisé dans la littérature érotique. Alors évidemment, il a de très gros problèmes. Eh bien, quels sont les policiers chargés de le surveiller et de le réprimer? C'est naturellement la police judiciaire qui intervient. Là, c'est normal. À l'intérieur de la PJ, c'est la brigade mondaine. Après tout, pourquoi pas? Mais à l'intérieur de la brigade mondaine, vous aviez une sous-brigade dite de la galanterie. Alors le terme devient invraisemblable. On est en 1950-1958 et la brigade ou la sous-brigade de la galanterie va vérifier dans une maison d'édition s'il n'y a pas des livres qui tomberaient sous le coup de la loi. Après 1958, cette brigade a disparu. Mais vous voyez combien, au fond, ces phénomènes de censure qui remontent bien sûr à l'Antiquité, qui remontent à la monarchie, à l'avant-révolution française, combien ils ont perduré très longtemps finalement, avant quand même dans nos pays de disparaître, du moins officiellement.
Ça a toujours existé justement, j'allais vous demander, parce que votre ouvrage remonte assez loin dans le temps et brosse aussi d'autres géographies, enfin d'autres pays, mais ça a toujours existé? Ça vient des régimes monarchiques, etc., ou avant ça?
Oh, c'est bien avant, on peut dire que la censure, elle est universelle, aucune société n'y a échappé. On la trouve effectivement aussi bien en Grèce qu'à Rome ou dans l'Empire chinois, donc il y a 2500 ans. Mais au départ, elle est plutôt d'essence religieuse. Et puis ensuite, c'est sa deuxième forme, elle devient davantage politique. Et nous la connaissons plutôt sous la forme politique. Mais très vite, elle revêt également une forme morale. Et c'est là d'ailleurs qu'elle frappe le plus fort et qu'elle est la plus dangereuse. Et puis dans mon livre, j'ai essayé de montrer qu'aujourd'hui, elle devient encore plus pernicieuse en devenant économique. Elle est soft en quelque sorte. La censure économique, elle non plus, elle ne se démasque pas. Elle ne travaille pas dans la clarté, elle travaille dans l'ombre, mais elle est efficace. Quelques exemples. Pierre Assouline, le journaliste, a souvent raconté que sa première biographie l'avait consacrée à Marcel Dassault. L'avionneur Marcel Dassault n'en voulait pas. Il avait fait racheter en sous-main tous les exemplaires pour être sûr que personne ne lirait son livre. C'est une forme de censure économique, plus douce, en ce sens que l'auteur n'est pas lésé, il va toucher ses droits d'auteur, mais enfin, moralement, il est lésé puisque personne ne lira son livre. Vous avez d'autres manières très pernicieuses d'agir de la censure économique. Il y a une vingtaine d'années, le directeur général de Calman Levy, Olivier Nora à l'époque, avait renoncé à publier un livre consacré à François Pinault parce que tout simplement François Pinault était, parmi ses nombreuses propriétés, propriétaire de la FNAC, et qu'un livre qui n'est pas présenté à la FNAC n'a aucune chance de rencontrer un grand public. Donc, sans qu'il ait reçu la moindre pression, sans qu'il y ait eu de coup de téléphone, le directeur général préférait ne pas aller plus loin et ne pas donc signer le contrat avec l'auteur, plutôt que de risquer de mécontenter la FNAC. On pourrait prendre un troisième exemple que j'ai moi rencontré parfois, où un éditeur décide, alors lui, de publier un livre parce qu'il sait qu'un livre va être publié sur un personnage à la mode, Alain Delon, ou un industriel comme François Pinault, ou n'importe quel autre, ou un président en exercice, Sarkozy. On publie immédiatement un livre pour assécher le marché, faire en sorte, au fond, que les concurrents ne puissent pas publier en même temps un livre critique. Le public, grâce aux médias, a été informé qu'il y avait une biographie, il l'a acheté ou il ne l'a pas acheté, mais il n'y a quasiment plus de marché. Alors ça, c'est une censure extrêmement pernicieuse, parce qu'au fond, elle tue véritablement la possibilité de dire ce que l'on pense d'un personnage ou d'un régime ou d'une entreprise.
À toutes les étapes, en fait, il y a possibilité de censure, qu'elle soit autodite ou pas dite, finalement, je ne vais pas signer ce contrat-là, jusqu'à je brûle vos livres ou j'assèche le marché.
Mais il y a en même temps, à toutes les étapes, y compris historiques, il y a des hommes qui ont refusé la censure. Certains l'ont payé très cher. Je pense à Étienne Dolé, l'imprimeur qui est brûlé vif, place Maubert à Paris, hein, au XVIe siècle. Je pense à Michel Servet qui est brûlé vif de la même manière par les protestants, par Calvin à Genève au même moment, ou à Giordano Bruno à Rome. Donc on voit bien qu'il y a des hommes qui sont allés au bout de leur refus de la censure, mais ils l'ont payé très cher. Pendant tout l'Ancien Régime, vous avez des colporteurs qui passent d'une frontière à une autre pour introduire les livres auxquels ils croient ou tout simplement les livres qui leur permettent de vivre. Aujourd'hui, nous vivons une époque différente, mais les lanceurs d'alerte existent. On a beau mettre Julian Assange en prison à Londres, obliger Edward Snowden à s'enfuir et à demander asile en Russie, ce qui paraît étrange vu d'aujourd'hui évidemment, mais enfin, c'est la réalité. Donc, ces lanceurs d'alerte, ils ont choisi de prendre des risques pour contourner la censure. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de machination, mais il y a des entreprises, des régimes, des hommes, des familles, des clans. Je pense à la mafia notamment, qui a mis la tête de l'écrivain Saviano, l'auteur de Gomorra, hein, une histoire de la Camorra, qui a mis sa tête à prix. Donc il y a bien des entreprises, criminelles ou non, qui effectivement veulent imposer une censure, mais l'humanité, heureusement, a aussi les moyens de se battre pour que la vérité puisse être publiée.
Et pourtant, si certaines et certains se sont bien révoltés contre la censure au prix parfois de leur vie, comme Jean-Yves Mollier vient de l'expliquer, il y en a d'autres qui au contraire agissent comme des censeurs. Ce sujet est particulièrement sensible dans le domaine de l'édition des manuels d'éducation scolaire lorsque ce sont les parents d'élèves qui interviennent et demandent l'interdiction de tel ou tel ouvrage.
Oui, ça c'est un phénomène, vous voyez, pour moi qui ai enseigné 46 ans, vous voyez, à la fois dans le secondaire et dans le supérieur, donc qui ai une très longue expérience de l'enseignement. Quand j'étais dans le secondaire, donc au début de ma carrière, je n'ai jamais connu ce type d'intervention parentale. Jamais. Ni immédiatement après 1968, quand j'ai commencé à travailler, jamais. Si des familles n'étaient pas tout à fait d'accord avec notre manière d'enseigner, elles pouvaient éventuellement le dire à l'enfant qui nous en faisait part, mais ça n'allait jamais plus loin. Les parents ne venaient même pas en salle des professeurs pour en discuter. Aujourd'hui, la situation a beaucoup changé. Un certain nombre de familles regardent les manuels scolaires, regardent les prises de notes de leurs enfants et interviennent. Alors, pas sur tout et n'importe quoi, hein, pas sur Jeanne d'Arc, ça n'intéresse plus personne, mais on va intervenir sur l'immigration, on va intervenir sur la sexualité, on va intervenir sur les gender studies, sur la notion de genre, on va intervenir sur des domaines extrêmement ciblés. Et là, oui, il y a de très, très fortes pressions. Et du coup, que me disent les éditeurs scolaires ? Nous regardons de très près un manuscrit avant de le publier. C'est eux qui me disent, au fond, sur la Révolution française, on ne regarde même plus. On laisse nos auteurs dire ce qu'ils ont envie de dire, car il n'y a pas un parent d'élève qui va intervenir. Alors qu'on pourrait croire que c'est encore un sujet brûlant, pas du tout. En revanche, et j'insiste, sur Jeanne d'Arc, même chose. Sur les Romains, sur les Grecs, ils n'ont même pas besoin de regarder ce que les auteurs écrivent. En revanche, sur le gender, la notion de genre, alors là, ils vont faire très attention parce que les familles vont intervenir.
Mais ces familles, elles ont le droit de demander l'interdiction d'un programme et d'un manuel qui a été validé par l'Éducation nationale ?
Alors là encore, il faut distinguer. Aux États-Unis, l'éducation relève des comtés. C'est pour ça qu'aux États-Unis, la situation est extrêmement variée. 50 États, mais des centaines de comtés. Donc, des législations extrêmement diverses. Dans un certain nombre d'États et de comtés, notamment au Texas, dans l'Arkansas, c'est plutôt à l'ouest du pays, les familles interviennent sur le choix, elles ont le choix des manuels scolaires. Alors là, les éditeurs américains nous disent, c'est devenu absolument épouvantable, on paye des cabinets d'avocats pour vérifier à l'avance que tel groupe, telle communauté ne va pas se sentir agressée. Alors ça peut être les femmes, ça peut être les LGBT, ça peut être les Afro-Américains, ça peut être tout. Les risques financiers sont trop importants pour qu'on prenne le moindre risque. Donc, on fait relire les manuscrits par des « sensitivity readers ». Vous voyez, le terme en anglais dit bien ce que ça veut dire. Des sortes de communautés sensitives, des gens qui partagent les mêmes sentiments que vous. Mais c'est une réalité, celle que je décris. Alors, elle est nouvelle. Hein. Elle date à peu près de 25 à 30 ans. Peut-être disparaîtra-t-elle, mais pour l'instant, elle est une réalité très, très forte. J'avais dit qu'il y avait deux catégories. En France, les parents d'élèves, théoriquement, n'ont pas la possibilité d'intervenir sur le choix des manuels. Ce sont les instituteurs dans le primaire, les professeurs dans le secondaire qui se réunissent par collège, par lycée ou par groupe d'école primaire dans le primaire pour décider du choix des manuels, celui-là plutôt que tel autre. Mais s'il y a des pressions ou s'il y avait, mettons-le plutôt au conditionnel, eh bien, ils seraient sans doute obligés d'en tenir compte. Il n'y a pas si longtemps en France, c'est-à-dire à la fin de la présidence de François Hollande, les ABCD de l'égalité ont été jetés à la poubelle sous prétexte que des parents d'élèves prétendaient que les ABCD de l'égalité allaient introduire la notion de genre à l'école. C'était évidemment une querelle stupide, car de toute façon, c'est la tâche des enseignants du primaire et du secondaire d'apprendre l'égalité aux enfants, bien entendu. Mais le fait qu'il y ait des ABCD, le fait que, par exemple, on puisse expliquer après Simone de Beauvoir qu'on ne naît pas fille, mais qu'on le devient. Mais il s'agit de dire que l'éducation pèse d'un poids assez important dans la construction de l'identité, dans la construction du psychisme. Donc, c'est une évidence, enfin, c'était une évidence pour ma génération de dire qu'effectivement, on ne naît ni garçon ni fille, mais on le devient par les phénomènes de l'éducation.
C'est ça qui la rend aussi universelle. Elle suit l'évolution des mentalités ou de la société. Et du coup, elle n'est jamais tout à fait la même et jamais disparue non plus. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être encadrée, parce qu'elle est tout le temps en train de changer.
Absolument. Et c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas seulement représentée comme une vieille dame aveugle et sourde. Elle est aussi représentée sous l'image de l'oiseau mythique, le phénix. On croit qu'elle disparaît et puis elle renaît de ses cendres et elle revient sous une autre forme, dans un autre pays, dans une autre région du monde. En ce sens, elle est extrêmement pernicieuse. Car au fond, ça revient à quoi censurer? Ça revient à refuser de prendre un problème et de le traiter. Un problème douloureux, en général, c'est parce qu'en effet, il fait mal, qu'on préfère finalement se masquer la réalité en l'interdisant.
Évidemment, c'est les sujets qui posent problème ou question dans la société qui, justement, sont ceux qu'il faut traiter et qui sont, comme vous l'écrivez, je l'ai noté parce que j'ai bien aimé votre formule, nécessaires à la compréhension du monde.
Ce sont les sujets qui font mal qui nous font avancer. Et l'humanité n'a jamais avancé qu'en se faisant mal régulièrement, c'est-à-dire en prenant à bras-le-corps les vrais problèmes qui lui sont posés.
J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you. Yeah. quand je serai sûr de moi, un petit peu moins fragile, ça ira. I want to see you.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front et c'était College Boy d'Indochine dont le clip, réalisé par Xavier Dolan, avait été censuré par le CSA car il montrait un adolescent crucifié pour dénoncer le harcèlement scolaire. Car ce soir, on parle censure, puisqu'on vous diffuse un entretien réalisé avec Jean-Yves Mollier autour de son ouvrage « Interdiction de publier, la censure d'hier à aujourd'hui » paru aux éditions Double Ponctuation. Dans la première partie de cet entretien, il avait détaillé les différentes formes de la censure, qu'elles soient religieuses, politiques ou économiques, et il commence ce deuxième extrait par en décrire une forme plus récente, celle du numérique et des algorithmes.
On imagine avec horreur aujourd'hui ce qu'aurait pu donner le régime nazi avec les ordinateurs et les algorithmes, ou le stalinisme en Union soviétique. C'est effrayant parce que dans l'un et l'autre cas, il y a quand même eu des oppositions qui ont pu s'exprimer, certes sous des formes atténuées, mais elles existaient. Avec une traque par l'algorithme, ce serait plus difficile. Et en effet, les grandes sociétés industrielles, les fameux GAFA ou les GAFAM, hein, Google, Apple, Amazon, Facebook, ces entreprises, théoriquement, pas théoriquement d'ailleurs, elles paient des employés pour empêcher un certain nombre de messages de passer. Ce sont des messages évidemment racistes, antisémites, sexuellement, qui pose problème. Mais en même temps, comme ce sont des algorithmes, ce sont des robots qui, dans un premier temps, censurent. J'ai raconté dans mon livre une anecdote amusante. Il y a un livre en France, pour la jeunesse, je n'ai plus le titre en mémoire, mais il y avait dedans « Pique-nique ». Or, le mot « nique » est censuré par les algorithmes, à juste titre d'ailleurs. Mais du coup, ce livre tout à fait innocent, Pichoun fait un pique-nique ou quelque chose comme ça. Donc ce livre parfaitement innocent, il a été censuré. Il a fallu que les auteurs et l'éditeur fassent appel auprès de Facebook pour qu'effectivement Facebook regarde ce livre et se rende compte qu'effectivement il n'y avait pas de raison. Mais pour être plus sérieux, l'origine du monde de Courbet, que tout le monde peut aller voir au musée d'Orsay à Paris, est interdit sur Facebook, sous prétexte qu'on voit le système pileux de la femme. Alors c'est quand même tout à fait étonnant qu'on puisse aller le voir dans un musée et qu'en même temps, ce tableau qui est un chef-d'œuvre romantique, évidemment, daté sans aucun doute, on ne peut pas le voir sur Internet. Donc il y a comme ça des censures. On l'a vu d'ailleurs de manière encore plus grave et plus pernicieuse pendant ce qu'on a appelé les révolutions du printemps arabe, où la plupart de ces grands nouveaux médias censuraient une partie de l'information. Et donc, on ne pouvait pas avoir en direct des informations complètes sur ce qui se passait dans ces pays-là. Ce sont des entreprises industrielles qui définissent évidemment leurs algorithmes. C'est elles qui salarient les observateurs, entre guillemets. Pour vous donner encore un exemple, il n'y avait pas de censure sur Internet sur les scènes où on voyait des membres de Daesh décapiter des otages. C'est abominable. Les grands médias censuraient ce genre d'image parce que ça n'est pas de la censure. Il s'agit d'épargner la sensibilité des téléspectateurs. Or, ça n'était pas considéré comme obscène par les GAFA, alors que quelque chose de tout à fait anodin sera considéré comme obscène. Par exemple, le tableau de Gustave Courbet. Il y a là quand même quelque chose d'absolument étonnant. Sauf si on se pose la question, mais pourquoi y a-t-il ces deux types différents d'attitudes? Tout simplement parce que money is money, et que la règle d'or des GAFA, c'est de dégager le plus de cash possible. Donc, si quelque chose est obscène à nos yeux, mais rapporte de l'argent, on le laissera passer. Si quelque chose n'est pas obscène et simplement relève de l'esthétique et non pas de la morale, mais ne rapporte pas d'argent, alors on le censurera. C'est là où, évidemment, il y a un problème fondamental et où on revient à la censure de type économique. C'est très compliqué de légiférer pour une entreprise internationale. Dans quel périmètre lui imposer quelque chose? les pays autoritaires, je pense à la Chine, négocient avec ces grands médias pour que, par exemple, tout ce qui concerne la révolte de la place Tiananmen n'apparaisse pas. Donc, ils négocient en amont. Ces entreprises, pour gagner de l'argent en Chine, savent qu'elles n'ont pas intérêt à s'affronter avec le pouvoir. Donc, elles acceptent dès le départ des phénomènes de censure. Mais si on voulait légiférer en France ou en Belgique ou en Espagne ou aux États-Unis, on aurait assez peu de chance. Alors, aux États-Unis, s'il y avait une législation aux États-Unis, ça aurait plus d'efficacité parce que ces entreprises ont une base américaine. En revanche, prendre une loi en Europe, je ne vois pas comment on pourrait l'imposer.
Vous êtes inquiet aujourd'hui, vous ?
Je suis inquiet parce que ce qui est peut-être plus grave, on n'en a pas encore parlé, c'est que des groupes, en partant en général d'un point de vue qui est juste, en viennent à exiger, au nom de la défense de leur groupe, que l'on se mette à censurer. Quelques exemples. Les féministes, le féminisme est un mouvement parfaitement sain, j'insiste sur cet adjectif. Il est sain au sens où le féminisme a obligé les hommes à se regarder devant un miroir et à se poser la question de leur domination. Il ne s'agit pas de remettre en cause le féminisme. Mais lorsqu'au nom d'un principe qui est sain, la défense du féminisme et l'éducation à la diversité, lorsqu'on voit des féministes, des mouvements féministes en Catalogne, en Grande-Bretagne et en Suisse demander que l'on interdise des comptes pour les enfants sous prétexte que, par exemple, dans La Belle au bois dormant, à la dernière image, le baiser n'est pas consenti, c'est une absurdité totale, totale. Bien sûr qu'il faut éduquer les enfants, garçons et filles, à l'idée qu'un baiser doit être consenti. Autant ces groupes féministes ont raison sur le principe, autant ils ont tort dans l'excès en retirant La Belle au bois dormant des écoles maternelles de Catalogne. Le féminisme n'a rien à gagner à aller vers de tels excès. Alors, on pourrait trouver bon nombre d'attitudes comme celle-là. Je crois que ça n'ajoute rien à tous ces mouvements d'aller dans l'excès. Il vaut mieux essayer, au contraire, de convaincre le plus de monde possible et donc d'essayer de balayer large en évitant ce type d'attitude. Mais c'est là où je suis quand même assez inquiet, c'est qu'on voit ces attitudes se multiplier. Je vais prendre un deuxième exemple. Aux États-Unis, dans un pays où le racisme a été profondément intégré et dans un pays où l'esclavage a duré pendant des siècles, on ne peut plus prononcer le mot « nigger ». Et d'ailleurs, on l'a remplacé par l'expression « le N-word », c'est-à-dire le mot « N » qui est un mot tabou. On comprend bien. Dans ce type de société, et d'ailleurs dans nos sociétés, il n'y a pas de raison de dire de quelqu'un « c'est un nègre » aujourd'hui. Mais si on lit Huckleberry Finn, un roman antiraciste de Mark Twain, qui a été publié autour de 1880. Il y a évidemment le mot « nigger » qui est utilisé plus de 70 fois. Or, dans les rééditions actuelles, on l'a enlevé. Donc, on va plaquer une réflexion parfaitement saine d'aujourd'hui sur une époque différente. Ça n'a pas de sens pour moi. On obtient un résultat bien pire. Il vaut mieux, au contraire, utiliser le roman tel qu'il a été publié, en montrant que précisément Mark Twain montre l'amitié profonde entre un garçon noir et un garçon blanc. Aux États-Unis, on dirait entre un caucasien et un afro-américain, parce que tout simplement, leur amitié est plus forte que la bêtise des êtres humains qui les entourent. Je pense que c'est bien plus efficace de garder le texte intégral plutôt que de l'enlever. Et je vais prendre un autre exemple. Vous imaginez, dans Candide de Voltaire, si on supprimait le chapitre sur le nègre de Suriname. Lorsque Candide voit ce nègre, il lui manque un bras, il lui manque une jambe. Et il lui demande, mais pourquoi est-ce qu'il te manque un bras et une jambe? Et le nègre répond, ma main a été prise dans la broyeuse quand je travaillais au canne à sucre, dans la distillerie. On m'a coupé tout le bras pour m'apprendre à faire attention. Et lorsque j'ai voulu m'enfuir et qu'on m'a repris, on m'a coupé une jambe. Et la dernière phrase de ce personnage, j'insiste en l'appelant le nègre de Suriname, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Est-ce qu'on devrait supprimer ce chapitre extraordinaire? Il n'y a besoin d'aucun commentaire. Faut-il aujourd'hui enlever l'expression nègre de Suriname, la remplacer par quoi? Par afro-américain? Ça n'a pas de sens. Gardons effectivement une expression datée et naturellement, interdisons de l'utiliser aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2022. N'imposons pas nos règles au passé. Ne réécrivons pas l'histoire. J'insiste parce que il y a des groupes qui ne parviennent pas à comprendre ce type de position. Alors moi, je l'aborde franchement dans mon livre.
Qu'est-ce qu'en tant qu'individu, on peut faire pour rester vigilant, pour comment on fait ? L'aboutissement de la censure, c'est de l'autocensure. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de texte, il n'y a même plus besoin de rien, on s'en occupe tout seul. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut rester vigilant et ouvert sur ces sujets ?
Je dirais que de ce point de vue-là, c'est le marché qui est le plus grand régulateur de ce point de vue, par rapport à cette question. Parce que c'est effectivement lui qui préfère non pas la censure ouverte, mais effectivement faire en sorte que, au nom du bon sens, au nom de notions jamais définies, on finisse par accepter de ne pas aborder les problèmes de fond. La société nord-américaine est en train d'aller vers ce type de société dans laquelle il n'y aura plus de contestation parce que de toute façon, on les aura balayés en amont. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut encourager, je dirais dans la presse écrite, les journaux du type Canard Enchaîné et Charlie Hebdo. Même d'ailleurs, quand leurs articles ne nous plaisent pas. On n'est pas obligé de lire ces journaux et de tout apprécier. Indépendamment de la caricature, il faut que les lanceurs d'alerte continuent à faire leur travail et qu'ils le fassent, je dirais, de manière de plus en plus approfondie, en lançant le maximum d'alerte dans tous les domaines pour éveiller ou réveiller la conscience critique. Et puis, il y a des associations, il y a des syndicats, il y a des partis politiques. Moi, je crois à la communauté saine, c'est-à-dire celle qui est basée sur l'association volontaire. Et de ce point de vue-là, eh bien, une association, un syndicat ou un parti politique, c'est fondé sur ce principe qu'on se regroupe, on se met à plusieurs parce qu'on est plus intelligent à plusieurs. On y voit davantage clair à plusieurs que tout seul. On a l'impression qu'on peut donner son avis directement sur Internet. Mais c'est une illusion totale. Ce n'est pas parce qu'on tweet ou parce qu'on participe à un blog que ça va avoir la moindre efficacité. On peut être sur les réseaux sociaux, ça ne pose pas de problème. Mais il faut se garder de l'illusion que tout se réglerait sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut essayer de revenir à cette réalité.
Nous, on a décidé de vous recevoir comme première étape pour rester éveillé.
Voilà, c'était pour les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel, un entretien réalisé avec Jean-Yves Mollier autour de son ouvrage Interdiction de publier, la censure d'hier à aujourd'hui, paru aux éditions Double Ponctuation.